Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, les 13 heures en temps universel, une heure de plus à Libreville, l'heure d'un nouveau journal avec Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Dans l'actualité, bilan très lourd en Ukraine où la ville de Soumy a été visée par des frappes russes, au moins 24 morts et une centaine de blessés. Les réactions indignées sont nombreuses, à commencer par le président Zelensky. Il appelle à faire pression sur la Russie pour arrêter la guerre. Dans la bande de Gaza, un hôpital frappé par l'armée israélienne. Les dégâts sont importants à suivre dès le début du journal. Nouvel incident diplomatique entre la France et l'Algérie. Alger proteste vivement contre la détention en France d'un agent consulaire. Dans ce journal aussi, une parlementaire britannique expulsée de Hong Kong. Et en cyclisme, actuellement, la course Paris-Roubaix et ses fameux pavés. Les dégâts sont très importants dans la bande de Gaza où donc un hôpital, un des rares encore en service, l'hôpital Al-Ali, a été frappé dans la nuit par des missiles israéliens. L'accueil et les urgences ont été détruits. Israël explique avoir visé des combattants du Hamas cachés dans cet hôpital pour préparer des attaques. Les responsables de l'établissement ont été prévenus juste avant les frappes par téléphone. Récit sur place d'Abla Junaidi.
Les images tournées par Al Jazeera avant les frappes sont saisissantes. À la suite de l'avertissement de quitter la zone en pleine nuit émis par l'armée israélienne, les patients et proches des malades se sont déversés dans les rues avec leurs lits d'hôpital, les bouteilles d'oxygène parfois. Personnes amputées, brûlées, des blessés à haut risque. Selon le médecin américain Razan Al-Nahas, qui vient de passer 50 jours à Gaza, 3 patients au moins seraient morts lors de leur évacuation, dont une enfant sous oxygène. Pour l'instant, il n'y a pas de bilan humain de la frappe elle-même. La réception et le département des urgences de l'hôpital seraient détruits par le feu, endommagés aussi le laboratoire, la pharmacie et le stock d'oxygène pour les soins intensifs. Les médecins et soignants d'Al-Ahli avaient l'habitude de travailler dans les pires conditions, notamment depuis la frappe qui avait fait plusieurs centaines de morts au tout début de la guerre. Mais ce matin, le dernier hôpital fonctionnel du Nord est un amas de ruines. Certains patients ont été emmenés vers un hôpital plus petit, moins équipé et lui-même partiellement détruit, celui d'Al-Shifa. Al-Ahli est le 35e hôpital bombardé depuis octobre 2023 à Gaza. Abla Junaidi, Jérusalem, RFI.
Je vous lisais dans les titres, le bilan est très lourd en Ukraine où un tir de missile russe a tué au moins 32 personnes et blessé une centaine d'autres à Soumy, ville du nord-est de l'Ukraine. Cela s'est passé ce matin en plein centre-ville, en ce dimanche des Rameaux, un jour où les gens vont à l'église. Cette attaque contre des civils est la plus meurtrière depuis des mois en Ukraine et notamment depuis la reprise de contact entre Washington et Moscou en février. Seuls des salauds peuvent faire cela, a lancé le président Volodymyr Zelensky. Réaction si indignée d'Emmanuel Macron. La Russie poursuit la guerre au mépris des vies humaines, du droit et des offres diplomatiques du président Trump, écrit Emmanuel Macron sur X. La Maison-Blanche a réagi à la reprise des pourparlers sur le nucléaire iranien en saluant un pas en avant. Ces pourparlers d'hier à Oman, en présence de l'émissaire de Donald Trump, ont été selon elle très positives et constructives. De son côté, Téhéran a précisé que le dialogue reprendrait samedi prochain, 19 avril. L'attente continue au Gabon, où se tenait hier une élection présidentielle. Les résultats globaux provisoires doivent être rendus publics par le ministre gabonais de l'Intérieur. Élection aussi en Équateur, ce dimanche, second tour de présidentielle entre le président sortant Daniel Noboa et son opposante de gauche Luisa González. Le résultat s'annonce serré dans un pays gangrené par la corruption et surtout par le narcotrafic. Notre envoyé spécial Raphaël Morand s'est rendu à Guayaquil où la guerre des gangs a contraint des habitants à s'enfuir.
Javier Moreira est travailleur social. Il accueille dans cette maison de la banlieue populaire de Guayaquil une dizaine de jeunes qui ont dû fuir leur quartier d'origine, Socio Vivienda, lorsque la guerre entre deux factions rivales d'un gang du narcotrafic a fait 22 morts en une seule journée. Evandro Moreno fait partie de ces déplacés.
Nous avons dû quitter le quartier après le massacre du 6 mars. Nous sommes partis le 7 au matin car la violence était vraiment insupportable.
Les organisations de droits de l'homme chiffrent à plus d'une centaine le nombre de familles, souvent afro-descendantes, qui ont quitté ce quartier par peur des fusillades, des extorsions ou par crainte que leurs enfants soient enrôlés de force dans des gangs. Mais une fois sortis du quartier, difficile de recommencer sa vie à cause du stigmate qui pèse sur ces familles.
On nous considère tous comme violents. C'est pesant d'être discriminé, de venir d'un quartier où il n'y a pas de transport, pas d'école et où on ne trouve pas de travail. Et une fois sorti du quartier, personne ne veut nous louer un logement car nous venons de Socio Vivienda.
Les organisations de défense des droits de l'homme attendent du nouveau gouvernement une reconnaissance du statut de déplacé et une aide au logement. Il y aurait des milliers de familles dans cette situation en Équateur. De retour de Guayaquil, Raphaël Morand, RFI.
RFI.
15h05 ici à Paris, on en vient à ce nouvel épisode dans le feuilleton des incidents diplomatiques entre la France et l'Algérie. Alger a vivement protesté contre la détention en France d'un agent consulaire. Cet homme est accusé d'avoir participé à l'enlèvement fin mars sur le sol français d'un influenceur algérien, Amir Boukors, un opposant au régime algérien. Dans cette affaire, trois hommes ont été mis en examen vendredi à Paris pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et ils ont été placés en détention. Le ministère algérien des Affaires étrangères a dénoncé, je cite, ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable qui causera un grand dommage aux relations bilatérales. Réaction de la France, enfin, l'autorité judiciaire française agit en toute indépendance, rappelle une source diplomatique. Une semaine après qu'Israël a refusé de laisser entrer deux députés britanniques sur son territoire, c'est au tour de Hong Kong d'expulser une parlementaire venue du Royaume-Uni. Elle n'a pas pu se rendre jeudi dernier dans la région administrative spéciale, appelée officiellement donc Hong Kong. La députée libérale-démocrate a été priée de faire demi-tour sans explication de la part des autorités chinoises. RFI Londres, Emeline Fin.
À son arrivée à l'aéroport de Hong Kong jeudi dernier, Vera Obhouse a été interpellée, interrogée puis renvoyée vers le Royaume-Uni alors qu'elle venait, accompagnée de son mari, rendre visite à leur fils, résident hongkongais qui vient de devenir papa. La députée libérale-démocrate raconte dans une interview au Sunday Times que ses bagages ont été fouillés et que les autorités de Hong Kong ont refusé de lui fournir une explication. Bien qu'il s'agisse d'une visite à caractère personnel, Vera Obhouse dénonce une insulte à tous les députés. L'élu appartient en effet à l'Alliance interparlementaire sur la Chine, un groupe international de surveillance des atteintes aux droits humains par Pékin. Et elle a plusieurs fois exprimé son inquiétude quant aux restrictions des libertés à Hong Kong et au Tibet. Le ministère britannique des Affaires étrangères voit un lien entre ses positions et le traitement de Vera Obhouse. Il serait inacceptable qu'une députée soit interdite d'entrer simplement pour ses opinions, a indiqué David Lamy. Le chef de la diplomatie promet d'évoquer urgemment la question avec la Chine et avec Hong Kong. Emeline Van Londres, RFI.
Au Japon, l'exposition universelle 2025 a ouvert ses portes aujourd'hui à Osaka. Quelques 160 pays et régions sont représentés. Le Japon a placé ce rendez-vous sous le signe des technologies d'avenir et aussi de la concorde dans un monde fracturé. Pour finir, les sports, victoire kenyane chez les hommes à l'arrivée du marathon de Paris. Bernard Biwott l'emporte en 2h, 5 minutes et 25 secondes, alors que chez les coureuses, la plus rapide a été l'éthiopienne Bedatu Hirpa. Elle a devancé au finish sa compatriote Dera Adida pour s'imposer en 2h, 20 minutes et 45 secondes. Et maintenant, du tennis, Carlos Alcaraz, pour la première fois, remporte le tournoi de Monte Carlo. L'Espagnol domine en finale l'Italien Musetti, le score 3-6, 6-1, 6-0. Avec cette victoire, Carlos Alcaraz retrouve sa place de numéro 2 mondial. Enfin, le Paris-Roubaix, l'arène des classiques cyclistes, le parcours de la 122e édition, on propose plus de 55 km de pavés sur une distance totale de près de 260 km entre Compiègne et Roubaix. Où en sont les coureurs, Thomas de Saint-Léger?
À 79 km de l'arrivée, Gilles, ils sont sortis il y a une quinzaine de minutes maintenant de la trouée d'Arambert, cet horrible secteur pavé tout droit qui traverse une forêt. Et là, l'effort est vraiment brutal. C'est un rodéo. Il faut absolument rester sur le vélo. Et forcément, il y a de la casse. On a vu un coureur à pied avec la roue avant complètement déjantée. Beaucoup de souffrance donc à l'arrière de la course et devant. Ça y est, on se toise, on se teste. Tadej Pogacar a placé une accélération dans cette trouée d'Arambert, aussitôt pris en charge par Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, le double tenant du titre, bien décidé à marquer son territoire. Il est déchaîné, il relance constamment et forcément le rythme est très difficile à suivre pour les autres coureurs. Il y a des cassures et ils ne sont plus que quatre maintenant à ouvrir la route en compagnie de Van Der Poel, son coéquipier Jasper Philipsen, deuxième l'an dernier, Tadej Pogacar donc bien sûr, mais on voit que le Slovène est à l'ouvrage. Il y a aussi les outsiders Mats Pedersen et Stéphane Bisseger, le Suisse, alors que Wout Van Aert, qui était lui aussi cité parmi